Tame Impala, Slow Rush Tour, an incredible transcendent live performance. She just said, is it true? Is it true? Tell me now. It's a promise I can make. And I won't. Tame Impala, Class Bell, March 10th. I don't know. I don't care. Get tickets now at evinco.ca.
Sur les ondes de CKUT 90.3 FM le lendemain de la veille avec votre animateur Marc-André. Et on a commencé ce déjeuner rock'n'roll-là avec l'album Cosmic Egg, Wolf Mother, New Moon Rising. Ça fait du bien. J'espère que vos toasts puis votre bar de peanuts sont restés en place parce que ça va être un show qui déménage aujourd'hui. Et pour la première fois, on a un invité spécial, Monsieur Rock'n'Roll en personne, Frank Kelly, yes. Comment vas-tu?
Ouh, ça va bien. Ça va très bien.
Ça va très bien?
Oui.
Hey, merci de ta présence. On a bien des choses à se dire. On s'est parlé il y a à peu près 2 semaines pour cette émission-là. Puis on a parlé pendant 2 heures au téléphone, comme des petites filles, comme des adolescentes.
Mais tu sais, ça l'aide pas. On se connaît, ça fait longtemps en plus. Ça, ça l'aide pas. On a des choses à se dire. Puis quand on se voit pas en plus, ça fait longtemps. Faut rattraper le...
Exactement le temps perdu, les anecdotes, puis tout ça. Hey, dis-moi en partant, comment va ton... Ben, t'as joué dans plusieurs projets, puis tout ça. On va commencer par le plus important, Paradise. Qu'est-ce qui arrive présentement avec Paradise?
Wow! Par où commencer? Ben Paradise, on a sorti un album juste avant l'arrivée du de la fameuse bébite.
Ouais.
Le fameux COVID.
Yes.
C'est, on l'a eu fort cette année.
Ouais.
Fait que c'est ça, on a sorti ça en même temps. Fait que malheureusement, on n'a pas été capable de tourner, on n'a pas été capable de le supporter. Ça a joué pas mal, on a fait les radios, on a fait un peu le tour de la planète avec ça, mais pas physiquement, en musique. Par les ondes, puis sinon, ça a bien été, puis là, on prépare un autre déjà, tu sais, pour si on est capable de finalement aller jouer, puis on va avoir du nouveau stock, tu sais.
OK. Mais moi, j'étais au lancement au Petit Campus. Tu te rappelles-tu de la date?
Je pense que c'était un 30 janvier.
OK. Quelques mois avant
29,
le
30 janvier. En fait, c'était un mois ou deux avant le premier confinement, là.
Vous avez fait un lancement, puis c'était quand même fucking plein. C'est vraiment cool.
Oui, on avait une méchante belle salle, belle gang. On a eu, c'est un beau party. Oui,
un beau lancement.
Oui, on a eu vraiment du fun. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle salle de même aussi à Montréal. T'sais, Paradise, ça fait longtemps là, que ça existe. Puis à la maison, c'est toujours un peu plus dur. T'sais, le monde, une fois qu'il t'a entendu, c'est dur de revoir ton monde souvent. T'sais. Puis non, ça a été un beau lancement.
Puis, hein, on peut-tu commencer par le monde m'a dit, c'est quoi Paradise? De où est-ce que ça vient? C'est quoi la genèse? Comment ça a commencé tout ça?
Paradise, ça a commencé il y a déjà, ça fait, je pense qu'on fêtait 18 ans ou 19 ans de vie cette année.
Wow, majeur. Ouais.
Fait que ça a commencé il y a un bon moment. Moi, je prenais un break d'un autre projet que j'avais. J'avais mon guitariste à l'époque qui était Jet Phil. Il prenait un break de 1976. Si les gens ont peu connu l'époque, là, avec Plastic punk. Patrick et l'espace de band punk, rock, glam. Yeah. On était un peu plus là-dedans. Puis on a sur moi, on a pris un break, on se dit, on part un band tiki, metal. On se déguisait en Elvis, mais en des sautes en stud.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette époque-là.
Oui,
ben
avec
oui.
Des totems hawaïens, polynésiens qui crachaient du feu, des licornes qui crachaient des confettis. Écoute, il n'y a rien qu'on faisait pas. C'était le fun, c'était une drôle d'époque. Puis ça a comme marché un peu, ça a accroché là, à quelques endroits. On s'est promené, on a fait un peu le tour du monde aussi avec ça à ce moment-là. On a sorti deux albums quasiment back-à-back. Là. Je pense qu'il y a eu 2-3 ans entre les deux. Puis après ça, ben, on a pris un bon break, je te dirais.
Puis là, ben, j'ai le premier entre les mains. J'adore le titre, moi étant anthropologue de déformation. Fait que le premier album, si vous essayez de le trouver, s'appelle Rock Anthropologist on the Kentucky Voyage. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à part la pochette et la fille qui danse avec ses paillettes, c'est que dans... Je sais pas comment l'expliquer.
Le
moi,
spine
je suis bien
qu'on appelait dans les CD.
Le spine CD, OK, ouais. Merci de...
On avait les parasols parce que tous les noms de tunes sur cet album-là, c'était des noms de drinks hawaïens ou polynésiens.
Le tiki avec du rhum, tout ce que
c'est
tout
les, c'est ça. Ouais. Fait qu'on avait, moi, j'étais tombé sur une gang de vieux menus de drinks tiki des années 50, 60, 70. Puis ça faisait super rock. Là. Je veux dire, Blue Hurricane, Headhunter.
Cobra's Fang.
Cobra's Fang.
Ouais, Headhunter, Jungle Fever.
C'est super rock and roll. On a dit, hey, je pense qu'on a.
Ouais, vous avez, c'est un super concept. Puis c'est ça, il y avait le petit parapluie que tu as dans ces drinks exotiques-là. Tu avais le petit parapluie, puis vous l'avez inséré dedans. C'était vraiment. J'ai rarement vu ça dans tes CD. C'était très vendeur, c'était très accrocheur. Ouais,
on avait du fun. Écoute, cet album-là, petite anecdote, ça avait pris 6 semaines. On avait trouvé le nom du band, composé les tunes, enregistré l'album printé dans le plastique comme ça, 6 semaines.
Wow.
Donc, tu fais le calcul, on a fait ça.
C'est de la job.
Rapide.
Ouais, c'est... Vous êtes des rapides, vous êtes des speedés.
On a eu bien du fun.
Et puis il y avait eu, ouais, c'est ça, il y avait eu pas mal de bonnes revues, cet album-là. Hein?
Ouais, on avait, ouais. Oui. Oui, ça avait bien. La réponse avait été bonne. Puis même beaucoup du côté européen. Là, on avait tout de suite été signé du côté anglais en Angleterre sur un label. Après ça, on avait fait un petit peu le tour Allemagne, Hollande. Ça s'est promené pas mal.
Ouais, c'est cool ça, voyager pour avec ta musique. C'est, ouais. c'est... Puis la réponse est-tu différente d'une ville à l'autre? Je veux dire, parce que là, vous étiez... Puis là, on peut-tu décrire un peu le band musicalement avant de rentrer peut-être dans... Je veux dire, c'est du rock. Comment tu le qualifies?
C'est difficile à décrire. Avant, à l'époque, on disait qu'on faisait du rock volcanique. Là, ça allait bien avec le concept.
Le concept,
du,
ouais.
du ski et puis des Elvis metal. Mais c'est bien weird, Paradise. On est comme tout le temps entre le heavy metal, vraiment entre le rock.
Rock, hard rock, glam, metal.
Metal. Surtout cette époque-là, là, on avait des fois, on jouait en talons hauts, puis les maquillages, puis les... Fait que, on se promenait vraiment dans tout cet univers-là. T'sais, on avait tellement... c'est une époque où on avait tellement d'influence. On se promenait entre le metal, le hard rock, le stoner, il y a des grosses influences stoner. Tu sais, j'étais un gros fan de Kaius à cette époque-là. Fait que tu l'entends, tu sais, mais...
À votre sauce.
C'est ça, exactement. Puis je pense que ça a fait, tu sais, on est tous des gars qui ont appris sur le tas, qui ont jamé dans ces... C'est ça, en écoutant ces affaires-là. Fait que je pense que c'est ça, on a pas mal notre son à nous autres, tu sais.
Puis là, à ce moment-là, la mouture de Paradise, c'était qui était dans... C'est qui les
ingrédients? C'était une drôle de gang. On avait, tu vois, sur l'album, il y avait Michel Langevin de Voivod au drum. Mm-hmm. On a eu, à bass, on avait Xavier Caféine. On a eu Mike Plant de Sword. Sur l'album aussi, qui a fait des basses, quelques gits, je pense. Il y avait Jet Phil, il y avait moi, mon frère qui est là depuis le début, aussi à la bass. On a écrit, il y avait Andrew Dixon qui a écrit une toune là-dessus de Tricky Who. Il y avait vraiment toutes sortes de.
Fait que c'est votre entourage qui venait.
C'était un projet le fun.
Oui.
On avait décidé de prendre un break, puis on fait quoi de cool, vite, puis on voit si ça marche. Puis fait qu'on avait demandé à du monde, justement, là, qui était vraiment autour de nous autres, puis hey, on fait ça, ça vous tente dessus, puis il y avait, c'est ça, cette gang-là avait comment embarquer.
Fait que ça, ils ont embarqué dans le délai, ouais.
Ouais.
Hey, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. Une des premières fois que je vous ai vu en show, vous étiez habillé. Là, corrige-moi si je me trompe. Vous aviez presque des pantalons noirs de mariachi, une veste noire, comme tu dis, ton Elvis. Vous aviez un look toute la gang.
On avait
habillé
copié les costumes d'Elvis Vegas, mais plus heavy metal.
OK.
On avait, tu sais, plus transformé avec plus des studs que des bijoux, tu sais. Mais il y avait des bijoux là-dedans.
OK. Il y avait du bling-bling. Ça flashait.
on avait, c'est ça. L'inspiration était un peu là, tu sais, tout le côté, justement, le hawaïen, polynésien. Tu sais, Elvis en a fait tellement partie.
Ben ouais, c'est vrai.
Puis c'est ça. Fait qu'on. Puis on était un peu. Nous autres, on est des gros fans de Judas Priest.
Oui.
Puis ça s'entend aussi dans la musique, surtout au niveau de la construction des tunes. Moi, j'aime beaucoup ça des fois. Tu sais, j'aime pas ça, je vole pas le riff, mais des fois, j'aime ça aller chercher dans l'inspiration dans la construction de la tune. Tu sais. Fait que t'as du Priest, beaucoup de Priest là-dedans. Puis Priest, c'est la même affaire, c'est des costumes de stud en cuir, un peu tout ça. Fait que on était comme des Elvis Judas Priest. C'est drôle
puis même dans la montée des guitares, puis parce que vous étiez deux guitaristes, il y avait toi et Jet Phil, comme t'as dit, et il y avait comme une, tu sais, comme pas la rivalité, mais le duo, tu sais, les deux guitaristes de Judas Priest, ouais. C'est ça, là, il y a comme une montée, puis on dirait qu'ils se répondent un peu comme Kerry King, puis Slayer, mais à un autre niveau, là, mais il y avait cette « vous répondiez ».
Exactement,
comme,
ouais. Ouais.
C'était
une belle, c'est ça, c'était juste du fun à ce moment-là, C'était très explosé comme univers.
Ouais, ouais, non, mais c'était cool, ça sortait de l'ordinaire, parce qu'habituellement, on allait voir des bands, ils étaient en t-shirt, puis en jeans déchirés, puis tout, puis vous autres, vous arriviez les mariachi Elvis du rock and roll Kentucky.
Ah, ouais.
Ah, ben, regarde, je vais te laisser présenter la pièce, et je vais placer le CD.
Je pense que tu mets Suffering Bastard. Suffering Bastard, en plus, qui était un throwaway de Sword à l'époque. Sword, qui était un band de Mike Plant, Rick Hughes, qui était populaire. C'est la sixième. C'est ça. Puis qu'on retrouve maintenant sur le nouvel album de Sword. OK.
C'était Paradise sur l'album. Tu veux-tu la présenter, Frank?
Encore. Rock Anthropologist on the Kon-Tiki Voyage. C'était Suffering Bastard.
Pourquoi? C'est quoi un Suffering Bastard? C'est un drink?
C'est un drink. Ce qu'il y a dedans, aucune idée.
OK. Il y a du rhum, si on le sait. Là.
On l'a probablement. Il doit avoir de la fumée. On les a tous essayés à l'époque, mais je ne me rappelle pas.
Hey, avant que je te coupe ça sec, parce que je pensais que tu étais prêt pour la toune, tu me disais que là, il y a un riff de... Ben, c'est cette toune-là?
Oui, cette toune-là, c'est un throwaway de Sword. Ça veut dire qu'un throwaway, là, c'est souvent, quand on monte un album, on écrit trop de tounes, plus que pas assez, puis il y a des affaires qui passent pour... Tu sais, finalement, c'est peut-être pas assez bon ou quoi que ce soit. C'est une toune que les gars n'avaient pas faite à l'époque. Fait que quand on a monté Paradise, Mike, il disait hey, « j'ai ce riff-là qui serait peut-être cool pour vous autres. » Puis effectivement, nous autres, on dit « wow, ça
fit avec
malade,
vous
ça marche. » Puis quand j'ai fait, il y a un gars avec qui on écrit les paroles, Rick Usagno. Fait qu'on écrit des textes avec Rick, on monte la toune. Fait que là, 10-15 ans plus tard, Sword, ils viennent de ressortir un album, ils viennent de se reformer, puis ils viennent de sortir un album.
Ben là, c'est une exclusivité sur CKUT. Ouais. Vous l'apprenez aujourd'hui. Les gars commencent à pratiquer parce qu'ils vont avoir une demande. Il y a de la pression.
Et puis, quand Mike il a sorti le riff pour Sword, il m'appelle, il a dit « Frank, faut que je refasse ça pour Sword. » Puis là, le gars qui a fait les textes, c'est Rick Usagno qui fait les textes avec nous autres à l'époque, a même refait les textes pour la nouvelle toune. Fait que les deux tounes se ressemblent étrangement, ce qui est comique. Ouais. Ça arrive, on dirait que... Ouais, ouais.
Mais c'est-tu la même thématique, le même sujet?
Écoute, on n'est pas loin de là, mais c'est très God. Cool. Les deux sont... je pense que les deux ont chacun leur
saveur.
Leur saveur.
C'est comme une cover, c'est comme une chanson ouais. que deux interprètes vont jouer à sa manière.
Très cool.
Hey, explique-moi ton rôle dans Paradise, en plus d'être chanteur, guitariste et créateur. Je pense, au début,
quand on a formé le band, je voulais pas chanter. J'avais jamais chanté, premièrement. Okay. Ce que tu venais d'entendre, je pense, c'est la première fois que je chantais de ma vie. T'sais.
C'est pas pire pour une première fois.
ça a bien tombé. Mais on a, écoute, c'était une série. À l'époque, c'était une série d'auditions les plus abracadabrantes les unes que les autres.
Je veux que tu me racontes ça. Les anecdotes, les amis, ouvrez vos oreilles, ça commence.
On a rencontré, un gars qu'on appelait King Karaoke. Lui m'appelle et dit « Salut les gars, mon nom c'est Johnny, c'est moi votre chanteur. » Je dis « OK, Johnny. » Il dit « Ouais, il dit un loup. » Ah, on s'en vient.
Attends, un loup, l'animal, lobo? Ouais, okay. Ouais.
Fait que, il me dit ça en anglais, il dit « Guys, I'm your singer, I have a wolf. » C'est correct, on saute dans le char.
On a fait jouer du Wolf Mother, hein? Tout un lien, tout est scripté.
On saute dans le char, on débarque là. Écoute, le gars, il avait l'air d'un troll. Il nous a reçu en serviette avec une robe de chambre. Il avait l'air d'un troll qu'on met sur le bout d'un crayon là, avec la chevelure.
Avec les
là.
Cheveux.
Mais c'était assez spécial. Écoute, il y avait des collages au mur faits avec des magazines porno. Quand tu regardais ça de loin, ça avait l'air des faces de présidents américains. Quand tu regardais ça de proche, tu voyais qu'il y avait tout découpé, là, des seins puis des parties intimes pour en faire.
Bon déjeuner, tout le monde.
Quel personnage. C'est, on a eu ça. On a eu un jeune, je pense qu'il était dans le parking du Tim Hortons, debout sur le char à crier sa vie. Ça, c'était un autre trait comique. On a eu un autre, je suis dans le fond de son salon. Gêné, la face devant sa bibliothèque, à marmonner. Mais tu sais, puis c'était un grand 6 pieds 4. Écoute, on les a remplis, les gars les plus bizarres après l'autre. Puis les filles, on aurait aimé ça, on n'a jamais trouvé, mais c'est ça. On a cherché fort, ça n'arrivait pas. Puis j'ai dit, fuck it, les gars, j'auditionne. Fait que j'ai auditionné pour mon propre projet.
Ça t'as passé le test. Hein?
J'ai fini par chanter dans Paradise.
T'as soudoué ton frère, t'as dit, hey, faut que tu me fasses rentrer, faut que je chante, faut que j'aille la gig.
Puis j'ai fini par chanter Paradise, mais jusqu'à récemment.
Oui, oui, oui.
Parce que maintenant, c'est mon grand chum de longue date, c'est Blackie qui chante.
Qui Black. Est Blackie pour ceux qui ne le connaissent
Black
pas?
Black a chanté longtemps pour Collectivo. Il a chanté pour un band black metal plus jeune aussi, qui était à New Rexis.
Ceux qui avaient un drummer avec double bass drum.
Je sais pas.
Puis était super long. En tout cas, je
pourrais l'appeler pour une marche.
Ouais, il me semble que c'était ce band-là. Je pense que c'est la seule affaire que je me rappelle de ce band-là.
Okay, fait que Black chantait là-dedans, tu sais. Mais ce qui est fait cocasse, c'est que dans le premier album, la première pochette, c'est que Blackie pose avec nous autres à la place de Michel Langevin.
Fait qu'il jouait du drum, il drumait aussi?
Non, il était juste là pour la photo. Okay, on dit, ça prend un gars pour le drummer, il se vient.
Avec des baguettes dans les mains.
Black, ça fait longtemps qu'il niaise autour du projet avec nous autres. T'sais. Il a même chanté back vocal, mané, sur un projet qu'on avait. Parce que le premier show de Paradise était au Stade Olympique.
Oui, ça, faut que tu me racontes ça. Ouais.
Fait que on s'était fait réveiller un matin. Mon gérant m'appelle et dit Louis Côté, il dit là, il dit, attends-tu faire le stade? Je dis, rappelle-moi non plus tard.
Tu pensais-tu qu'il niaisait ou c'est quoi? Tu vas jouer mais pour Youpi?
C'était Marie-Chantal Toupin, elle avait refusé la gig, je pense, une affaire de même parce qu'elle dit que c'est trop dangereux. Fait que c'était pour le 25e anniversaire du Super Motocross, puis on se faisait grimper dans les airs à 25-30 pieds dans les airs, puis il y avait une trentaine de mille pièces de feu d'artifice. Puis
wow,
une sorte d'affaire,
peux pas. Mais... C'est paradise, ça.
Puis on l'a fait live devant, tu sais, je pense que c'était 7 millions d'auditeurs pay-per-view. C'est le premier show, tu sais.
Wow, que, ça casse bien la glace, hein?
Ouais, c'est Xavier Caffin, le drummer, là-dessus. Écoute, c'est-à-dire, on avait un drôle de bande.
Il y avait eu des pratiques avant, j'espère.
Oui, on avait eu un soundcheck, genre, puis c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, je voulais pas chanter. Fait que Blackie est devenu chanteur. Fait que c'est ça. Histoire longue, mais c'est ça.
Fait que le show au stade, c'est qui chantait finalement?
C'était moi qui chantais.
C'est toi? OK, ouais. OK. Puis comment que c'est? Je joue au stade, là. Faut que tu me racontes ça, là. C'est énorme.
7 secondes de délai, à peu près.
Oh.
Dans le système de son à Youpi. Fait que quand tu jouais une note, mais 7 secondes après, tu l'entendais encore. Fait qu'imagine le reste, tu sais. Fait qu'on jouait tout en in-ear. Puis là, tout d'un coup, le soir du show, ben, t'as 35 000 piastres de pyro en 6 minutes. Fait que là, on entendait d'un coup, là, après ça, on n'entendait plus rien. On entendait juste les explosions. On chantait, puis on faisait ce qu'on pouvait.
Ouais,
on comptait dans nos têtes, puis c'est ça. Mais ça a bien sorti, finalement. On a vu
Le tournage,
le footage. C'est bon, on s'en est bien sorti.
Mais ça devait être stressant, pareil, sur stage, avec le délai, le décalage.
Ouais, on a réalisé par la suite pourquoi que tout le monde avait refusé de faire la gig.
Puis tu savais. Ben, c'est pas reconnu.
C'était un suicide un peu, tu sais, je veux dire. C'était...
Le stade, il n'y a pas beaucoup de shows, je pense, qui sonnent.
Non.
J'ai juste vu Rolling Stone, mais je trouvais ça weird.
Puis moi, un autre fait cocasse pendant le show. Moi, je suis tombé tout de suite après la tune, sans connaissance. Parce que quand tu chantes, écoute, je pense que je t'ai rendu 40 pieds dans les airs, puis ça faisait à peu près 3 heures que des motocross tournaient en rond.
Ah, le gaz!
Ouais, c'est ça. Fait que t'as le gaz carbonique qui ben, tout le CO2 monte dans le stade, puis avec moi qui chante. Puis fait que la dernière note, poum, le micro est tombé, je suis tombé dans le fond du...
Aïe, c'est le premier, le dernier show de Paradise. Frank rentre directement au paradis sans passer par l'enfer.
C'est toute une aventure.
Aïe, ça c'est vrai.
Puis là, sur ce show-là, en plus, je crachais du feu en même temps. Puis je pense que le feu était pris dans le stage. Puis là, t'avais les gars en bas qui criaient « le feu est pogné », puis là, moi qui tombe sans connaissance. En tout cas, c'était tout un...
My God. Mais ça, faut que tu me racontes ça. Je sais un peu l'histoire, mais t'es un amuseur public. Il y a un côté de tu crachais du feu quand t'étais plus jeune, hein, c'est ça?
Oui, ma mère a fait partie, était là au début des Cirque du Soleil, qui était à Châssis de Saint-Paul. On a grandi au travers de cette aventure-là. À vivre dans les autobus, à tourner, à faire des... C'est ça, être amuseur public. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à... en échasse, j'avais 6-7 ans, échassier. Après ça, je suis tombé cracheur de feu vers 13-14 ans. J'ai appris à faire ça, jongler. Après ça, 16 ans, là, déjà là, je faisais beaucoup de sons, éclairage pour les shows de ma mère. Je faisais beaucoup de théâtre et puis beaucoup de spectacles, théâtre expérimental et tout ça. Je faisais beaucoup de sons, éclairage. Puis c'est là qu'après ça, ma passion pour la musique, là, tu sais, j'ai commencé à jouer de la guitare pendant ces âges-là en même temps. Puis,
à 13-14 ou
non, plus,
non, plus
tard.
Jeune.
Ouais, plus tard. C'est tard, moi. Okay. C'est ça, vers 16-17. Tu sais.
OK.
Puis, parce que ça pognait avec les filles, tu sais.
Ouais. Ouais. L'ami avait dit ça aussi, je pense. L'ami de Motorhead, c'était.
Ah oui? Écoute, c'était bien efficace.
Ouais.
Puis surtout que j'avais, tu sais, on dit, on était une gang de punk, on se tenait ensemble, on écoutait c'était vraiment nos premiers amours avec la musique, les Dead Kennedys, toute cette époque-là, on trippait là-dessus, puis on voulait monter nos propres bandes, fait que, tu fais, tu sais, c'était pas bien compliqué, là, tu sais.
Puis t'en as-tu monté plusieurs de petits groupes punk rock,
on
tout
a
ça?
Eu, j'ai eu quelques, ouais, c'est ça, j'ai eu mes balbutiements...
Puis ton frère était-tu toujours?
Je te dirais qu'on faisait plus de dope, on prenait plus un coup que jouer de la musique, là, mais...
après, ça a changé. Mais ton frère était-tu toujours parti de l'aventure dans chaque projet?
Ouais, ou... depuis le début, pauvre lui. Moi, je quand même, tu sais, j'étais un peu... J'étais instigateur de beaucoup de projets, tu sais, j'aime ça, les projets, puis je me lance peut-être probablement tout le temps dans plein d'affaires. Puis Fred, ben... J'ai tout le temps, OK, là, tu vas être guitariste, là, tu vas être bassiste, là, tu vas être drummer. Fait que je mettais les instruments dans les mains, puis je disais, tu joues ça.
Mais c'est ton petit frère, hein,
ouais,
c'est ça. Fait que c'est ça. Le grand frère, il dit, toi, tu fais ça, puis t'as rien à dire.
Fait que, mais je pense qu'il a toujours aimé ça, faire partie de ça. T'sais, à chaque fois, comme là, j'étais encore en train de penser à un nouveau projet, puis c'est le premier en arrière de moi vouloir... participer. Fait que
vous vous motivez, vous craquez
en
vous
autres. Oui, on est des frères gonflables.
Ouais. les frères Kelly. Hey, on va aller tout de suite en pause parce que je pense qu'on pourrait continuer longtemps là-dessus. On va prendre une petite pause, puis on va continuer sur CKUT 90.3 avec Frank de Paradise. On va écouter de la très bonne musique après cette pause commerciale.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes tes distances.
Vous connaissez la chanson. Célébrez avec vos proches, mais évitez les accolades et les embrassades. Et gardez un mètre de distance. Un message du gouvernement du Québec.
Vous êtes sur les ondes de CKUT 90.3 FM. On est de retour au lendemain de la veille et on est avec un invité spécial, Frank Kelly. Re-bonjour. Explique-moi ce qu'on vient d'écouter de Paradise.
Super 8. Super 8, c'est une des tunes qu'on fait encore live. Habituellement, c'est de la grosse tune de party. On finit là-dessus.
C'est l'anarchie totale. C'est
absolument.
Mais là, ça vient du deuxième album qui s'appelle Paradise, c'est le groupe. L'album s'appelle Hotel.
Oui.
Et là, encore un album, on peut dire thématique ou concept un peu. C'est toutes les chansons représentent une hôtel à Las Vegas.
Pas nécessairement à Las Vegas, mais il y en a, je pense, quelques-uns, oui. Mais tu sais, c'est... Non, je pense que celui-là, on revenait justement de tourner, puis tout ça, les hôtels, puis... On trouvait assez une autre fois. Je pense qu'on on cherchait des
un filon à exploiter. Filon,
là, c'était des noms d'hôtels, tu sais. Fait que Eldorado, Super 8, c'est rock, ok.
Ah, ça rock. J'espère que le monde, c'est un bon déjeuner. J'espère que vous êtes en auto rendu à cette heure-là. La pochette est hallucinante. Ben, il y a vous deux, les deux frères Kelly. Il y a Jet Phil qui est comme dans le milieu.
Ouais.
Et il y a un chien. C'était qui le chien? Il y a comme une espèce
de... C'est un pitbull.
C'est un pitbull, c'était qui?
Ouais, c'était un pitbull blanc.
Ouais.
Qui s'appelait Cocaïne.
Oh, ok. C'est
ouais. Sympathique.
C'est sympathique, oui.
Ouais. C'est une voisine qui avait ça.
OK, il est assez impressionnant. Puis l'album au complet, je regarde aussi la pochette à Lando. Toi, tu fais de l'infographie. T'as-tu joué là-dessus?
C'est-tu ben, pas sur celle-là, par contre. J'ai pas joué sur celle-là.
Parce que là, c'est comme une hôtel avec une vieille piscine, puis avec des madames avec des cases de bain, puis tu sais, il y a comme un... Puis il y a encore des palmiers, hein? Il y a le retour des palmiers, le paradise, il y a tout le temps des palmiers.
Oui, le thème est toujours là.
Est toujours là, ouais. Avec des drinks exotiques encore. Ouais. Et là, parle-moi, fait que là, on dirait que vous êtes un power trio, mais c'est pas le cas. Vous aviez un drummer qui est Michel Langevin.
Là-dessus encore, Michel avait joué aussi.
OK. Ouais. Ça, c'est une grosse carte, là, quand tu dis... j'ai le drummer de Voivod qui vient enregistrer avec Paradise sur deux albums, le premier et le deuxième. Peux-tu nous en
compter? Ben Michel faisait partie encore une fois là, des amis proches. T'sais, on était pas, je le connaissais pas beaucoup. Puis finalement, t'sais, je veux dire, un être exceptionnel. Fin, c'est ça, super généreux. Fait que c'est ça, ça a donné ça. Écoute, il était venu faire le premier, le deuxième, puis on a eu du bien du fun avec ça. Ça encore, comme je l'ai dit, ça s'est tellement fait vite. T'sais, on n'a pas eu le temps de... On n'a pas passé 6 mois dans un
studio,
dans une maison
chef,
en retraite à composer un album. Là, t'sais, non, t'sais, ça, c'est des albums qui ont été enregistrés sur des fins de semaine. Là, t'sais, fait que...
Puis tu me disais, pendant qu'on écoutait la toune, Michel, il entend la chanson, vous faites une ou deux takes,
ben,
c'est déjà enregistré,
c'est une
machine.
C'est une bébite en soi, là, tu sais, c'est ça. Il passait au travers de la toune, on tapait une première, il faisait une première take, la deuxième, c'était la bonne.
Incroyable.
C'est ça. C'est Michel Langevin, tu sais.
Ouais, c'est la signature, c'est, ouais, c'est
la légende.
La légende, oui.
Puis c'est, écoute, moi, le premier, on l'a fait live. On l'a tapé. Le premier, on l'a fait sur 2 pouces live. Fait que on était dans le boot. Michel, moi, il y avait Mike Plant à la base, ou Xavier à la base, ou en tout cas, on les jouait live.
Okay.
Puis c'est spécial d'être à côté de Michel. Quand,
puis d'avoir drumé.
Ouais, la vibe, c'est comme un train qui avance. Il y a comme tout résonne. C'est spécial. C'est dur à expliquer. Mais il faut voir ça, tu sais.
Puis pour le deuxième, là, c'était plus l'air?
Le deuxième, non. On a fait ça plus... on est allé directement, tu sais, en numérique. On est retombé sur les méthodes plus actuelles, tu sais. Le premier, on voulait vraiment faire ça comme à l'époque, tu sais, sur 2 pouces... pas éditer, jouer les tunes d'un bout à l'autre, avoir une vibe plus naturelle.
Ouais, plus organique. Plus.
Le deuxième, j'ai pris un peu plus mon temps aussi sur le son, cette affaire-là. J'ai travaillé un peu plus ça. Le troisième, écoute, on a une prod. Là, Kev, sur le troisième, Kevin Jardine a fait un job incroyable. Là,
Fait que t'as lâché un peu la production.
Oui, complètement.
T'as fait confiance à un réalisateur qui dit « OK, je vais faire de quoi avec votre son. »
On voulait ça vraiment pour le troisième. Les deux, c'était mixé par Glenn Robinson, mais pauvre lui, c'est pas lui qui l'a enregistré. T'sais. Fait qu'il était pris avec ce que moi, j'y envoyais.
Fait que la marge de manœuvre est moins grande dans ce temps-là?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Fait qu'il y avait pas... Il voulait taper le deuxième, mais on n'a jamais passé aux lignes.
Ah, OK. Ouais. Aux States.
Aux States, on passe pas, nous autres, on est tannant, tu sais. Fait que, de ban au complet.
Ouais, OK. C'est pas juste un membre, c'est... Nous autres, c'est tout ou pas en tout.
On a essayé, écoute, je pense, ils nous ont gardé aux lignes. Je pense que ça a duré 6-7 heures, écoute. C'était ça, on a donné un beau spectacle. Mais on n'est jamais passé.
Vous avez sorti vos guitares. Puis vous êtes on est des musiciens. On va juste aller enregistrer l'autre bord. C'était où vous auriez enregistré? Je veux dire, c'est.
On s'en allait au studio de Glenn à New York.
Ah, c'est à New York,
okay. Oui, c'est ça. Fait que finalement, moi, j'ai fait ça ici chez des chums là, à Apollo, à Montréal. Puis, mais Glenn a généreusement mixé quand même.
Le master.
Il a envoyé ce qui est ça. Puis il a mixé. Mais le troisième, on est vraiment content. Puis surtout. Fier de la job de Kev. Là. Kevin Jardine, lui, c'est Slaves on Dope.
Ouais.
Son propre studio, il est producteur, réalisateur. T'sais, il fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui nous enligne un peu plus sur des affaires. T'sais.
Fait que vous avez juste à vous concentrer sur la musique, puis lui, sur le son.
C'est ça.
OK.
Fait que c'est très cool.
Puis parle-moi du troisième album, vu qu'on est, dans le sujet.
Ben, le troisième, ça a pris du temps à le faire. Paradise n'existait plus vraiment. Avec Blackie, qui est mon chum de longue date. Black, on a eu un autre projet entre-temps, nous autres, qui s'appelait RL Black, qui était plus électro, Nine Inch Nails,
okay.
C'est bar, si tu veux une référence. Puis là, on s'est dit, ce serait le fun de retourner, de plugger direct dans les amplis, refaire du bruit. Puis là, il me dit, ouais, mais tu sais, t'as Paradise déjà, il y a deux albums.
Ouais, le nom est déjà ça, là,
ouais,
c'est ça.
Il dit, ah ouais, ça me tente de chanter ça. Il dit, moi, ça me tente pas de chanter. Fait que lui, il dit, ouais, ouais.
Je vais le faire pour toi.
Ouais, je vais le faire, puis on sort un autre album. Fait que justement, on a sauté sur le train Paradise, puis on a fait un troisième album.
Quelle bonne nouvelle. On était très contents de vous voir en show. On était très contents d'entendre cet album-là. Et comme un phénix, vous avez... Je cherche mes mots, je suis très... C'est l'émotion un peu, parce que je regarde juste la cover.
Je pense que c'est un beau retour, dans le sens... Mais tu sens qu'on a plus d'expérience, tout le monde. On a tout travaillé...
Joué dans d'autres bandes
aussi. Dans d'autres bandes, d'autres projets, d'autres affaires. On a tout fait plein d'affaires, fait que tu sais, on sent plus la maturité dans la musique, dans le son, dans... C'est ça, là, on était bien content de...
Puis c'est un vinyle, ce que j'ai dans les mains, c'est un vinyle. Wow. C'est le premier aussi du groupe.
Oui.
Oui. Avant, on était encore dans le CD.
Oui, ben, tu sais, avec je pense que le vinyle est bien. C'est un beau grand retour du vinyle.
Définitivement.
Je pense qu'il se porte bien. Puis moi, c'est ce que j'écoute dans la vie. Puis j'avais envie de l'avoir sur vinyle. Puis j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir fait sur les deux premiers. Fait que c'était bien important pour nous autres de l'avoir sur vinyle, celui-là. T'sais.
Puis comment il s'appelle, celui-là? C'est juste Paradise?
C'est ça.
OK. C'est éponyme, c'est le groupe, ouais. Le nom. OK. Puis là, c'est ça, je cherchais mes mots parce que je regardais la pochette en même temps puis je voulais dire un phénix qui renaît de ses cendres. Mais c'est pas un phénix, il est dans le désert. Il y a une lune dans le fond, c'est le jour. Il y a un petit côté, on dirait, désertique stoner. Et c'est un corbeau, un aigle.
C'est un corbeau, ça un fait corbeau.
Il est badass.
Ça fait quelques années qu'on utilise le corbeau, qui est notre logo live. Tu sais, on a un logo.
Oui. En lumière, ouais, en arrière du drum.
C'est ça qui tire des lasers.
OK. C'est vrai, j'avais oublié ça.
Qui cache du feu.
Ben oui. C'est vrai. J'avais vu une forgerie, justement, je pense.
Oui, c'est ouais. Ça. Il faisait des drôles d'affaires, notre corbeau. On aime ça, il fait faire des affaires. Fait que, on avait deux ou trois idées de pochettes. Là. Il y en avait une des pochettes, il tirait des lasers puis il détruisait une ville. Puis finalement, c'est celle-là qui...
Il est plus tranquille, mais on sait qu'il lève les ailes.
Mais il est beau.
Ah, il est super.
Mais Blackie aussi est et designer graphique.
Ah, puis c'est lui qui l'a fait?
C'est Blackie qui l'a fait.
Ah, ça. OK. Là je vais nommer justement les musiciens qui t'accompagnent. Fait que toi, t'es le lead guitariste sur cet album-là. On parle du dernier. Ton frère Fred à la bass.
Ouais.
Mathias au drum.
Mathias qu'on vient de perdre.
OK. On va faire une parenthèse, je te reviens là-dessus. Freddy Krueger, ou je sais pas comment le prononcer, c'est Fred Krueger, guitare, comme Freddy Krueger, mais en tout cas, c'est séparé en mots. Et R.L. Black aux vocals, aux vocales.
Yes.
Yes. Quel album? Le vinyle est jaune. Sont-tu tous jaunes? Celui que j'ai, il est jaune.
Oui.
J'adore le jaune. Il est translucide, fait que tu vois ton slip mat en dessous.
Yes.
Et là, dis-moi, les chanteurs, vous avez eu de la misère, c'est toi qui as eu le rôle, tu étais chercher R.L. Black, ton chum. Mais les drummers, OK, vous avez eu Michel Langevin qui est la Cadillac, mais l'histoire des drummers, là, tout le monde mange leur drummer.
Quelle race de monde, ça? Les drummers, là, c'est très difficile.
Qu'est-ce qu'ils ont? Explique-moi ça. Un petit cours 101 de drummers.
Moi, je pense que c'est juste un parcours de... C'est juste un drôle de... On a juste un drôle de parcours avec les drummers. Je pense que depuis le début, on les collectionne. T'sais. Fait qu'on n'arrive jamais à...
Tableau de chasse.
Il y a toujours quelque chose qui arrive. T'sais. Je dis Michel, c'était bon d'un, c'était très occupé.
Oui.
C'est que c'est soit qu'on les perd, ou tu sais, Xavier, parce que c'était Xavier Caféine.
Ouais,
Xavier,
il avait sa carrière. Aussi, ouais, c'est ça.
Après ça, on a eu Pat. Pat, on se l'est fait voler, mon ami, Tricky You. Après ça, il a joué pour Beast, Ariane Moffat.
OK, ça, ouais, ouais.
Ça, là, on l'a perdu là.
C'est des gros gigs, ça coûte cher de le ramener dans le Giro.
C'est ça, tu sais, on s'est promené. Quand on était en Europe, on en avait un, on avait notre petit Européen là-bas. Mais là, après ça, on est revenu. Fait que là, je cherche un autre drummer. Écoute, je sais même plus combien j'en ai eu, puis c'est ça.
Fait que là, est-ce qu'on fait un appel, un lancer à tous? Vous êtes drummer, vous avez une bonne attitude, vous êtes rock and roll, mais...
Oui, ouais, on est là. On en cherche un autre. Oui, c'est okay. Ça. Malheureusement, Matt nous a... Matt est parti sur d'autres aventures, d'autres affaires, fait que il avait besoin de temps pour lui. Fait que go, tu sais, je veux dire... Il n'y a personne que, tu sais, on sait aujourd'hui, la musique, ça ne paye pas les billes.
Oui.
Ou très peu. Fait que, c'est ça. Fait que Matt est allé gagner sa vie. Fait que, oui, oui, on en cherche encore un autre.
Bon, ben là, les auditions sont ouvertes. Venez cogner, on va vous donner l'adresse de Paradise. Hey, mais Mathias, on le salue. Être sympathique, oui, super bon drummer.
Effectivement, bonne attitude. Je pense que c'est un des bons qu'on a eu, sincèrement. C'était magique, tu sais, un petit gars plein de talent, super fin, super tout, donc il n'y en avait rien à dire.
Ça me fait penser à quoi qu'on n'a pas parlé, là je t'emmène dans un territoire, vous êtes allé jouer à Cuba.
Oui.
Puis ça, wow, explique-moi ça.
On a fait ça juste avant l'arrivée du COVID, c'est mon nom d'un téléphone, c'est ma chum Chantal Arroyo.
De
Overbase, ouais. C'est ça. Puis Chantal a dit François, nous autres, tu pas sûr que ça nous tente de faire ça. Elle dit on a assez tourné de Mexique, des tournées de tout croche, ça me tente plus bien.
on passe le flambeau.
Ça te tente-tu? Je dis pourquoi pas, tu sais, je vais appeler le gars, tu sais. Fait que finalement, je parle avec le gars. Je pense qu'on n'a pas pris vraiment de temps pour y répondre. On a répondu oui tout de suite.
OK.
L'année d'avant, je pense que c'était Suicidal Tendencies qui avait fait le tour.
Wow.
Avec. Puis l'autre année d'avant, c'était. Ça va me revenir. Mais bon.
Fait que là, le marché, on va dire, de la musique américaine ou nord-américaine.
Était comme ouvert un peu. Okay. Puis ça, c'était dans le cadre d'un. La tournée commençait dans un gros festival. Je ne me rappelle pas le nom, écoute. Le rhum était tellement bon.
Havana Club, les amis.
C'est ça. Puis, tu sais, c'est un gros festival là, de d'art en général mondial. Okay. Fait qu'il invite un peu toutes sortes de monde à travers, là, des danseurs, théâtre, photos, tout ce qui a rapport de proche ou de loin à l'art.
Puis vous, est-ce que vous représentez?
Nous autres, on représentait...
Le Canada.
Finalement, le Canada. On ne savait pas ça. Parce que quand on est arrivé, on s'est fait recevoir comme étant la délégation canadienne.
Oh my God.
Mais rire. Là, ça a levé le lendemain de veille, arrivé une heure en retard au meeting, puis nous attendait la TV cubaine comme délégation canadienne. Fait que c'était très comique. Mais le métal, le rock à Cuba
est fort.
C'est fort, puis il est en vie, puis il est en forme, puis. Écoute, on a joué devant des publics comme à l'époque, tu sais, qui répondent comme à l'époque. T'sais. Aujourd'hui, tu joues devant une gang, là, les jeunes, là, ça a tout vu, ça a tout entendu, c'est, le monde est blasé.
Il n'y a pas une excitation.
C'est ça, du show. De la, tu sais, puis, première note, ils sont dans ta face, ils sont quasiment grimpés sur le stage en criant, en faisant des sauts périlleux. C'est quoi, c'était magique.
Mais ils en ont vu un peu moins aussi
c'est
à cause de
l'embargo. C'est sûr qu'ils en ont moins vu, mais je te dis, c'est un des plus beaux publics qu'on a eu.
Ça doit.
Plugué dans des systèmes de son, mon gars, de Che Guevara. Écoute, c'était tout croche, dangereux, mais c'est ça le rock, hein?
Danger, give me danger.
Les
ben oui.
Fils dénudés direct dans les plugs, il n'y a rien qu'on n'a pas vu. des amplis, t'avais des trucs qu'on n'a jamais vus, fabriqués à la main.
Oh my God.
Il y a un show qu'on a fait dans un club là-bas, un moment donné, on était branchés direct dans les boards. Pour ceux qui font de la musique, t'sais, c'est pas super, c'est pas grave. C'était tellement cool que c'était magique.
Puis ils vous ont-tu mixé comme un band de salsa? Vous avez
pas en tout. Non. Écoute, on était le band, au contraire. Je te dirais que même que mon année, on commençait à être gêné, on était le band de moins élevé là, tu sais.
Ah oui?
Ouais.
Okay.
Fait que c'était vraiment là, des bandes, tu sais, c'était deathcore, black metal.
Oh, OK.
Ouais. Fait qu'on on a des belles photos, okay. Tu sais, s'il y en a, ils font voir, sur Paradise, on a des photos avec des bandes black metal. Écoute, super, il était super fin, cubain. Je te dis, c'était magique. Là, c'était,
ben, j'en doute pas.
Je pensais même pas que ça existait autant à Cuba, la musique metal, tu sais. Fait que puis le dernier show qu'on a fait, c'est ça, c'était la Havane. Puis ça avec, là, on jouait sur le gear de c'est-tu Sepultura. Puis c'est ça qu'ils ont, eux autres, ils ont laissé sur le dernier show qu'ils ont fait là, tu sais.
Okay.
Eux autres, ils ont laissé leur gear sur place après avoir fait le show. Puis là, la grosse salle pour le métal à la Havane, c'est le gear qu'ils utilisent.
OK. Wow. Okay.
Non, c'est très cool.
Fait que la connexion Brésil-Cuba-Canada est faite.
Ouais.
Fait que là, Paradise, il faut aller jouer. Pour moi, le paradis, c'est au Brésil. Fait que c'est votre prochain step, c'est d'aller jouer là-bas. Hey, on pourrait continuer longtemps. Ça l'avance vite. Là, je sais que tu es un gros fan de Suicidal Tendencies. Je me rappelle d'un... Ton adolescence. Je me rappelle d'un show. On avait été vous rencontrer, moi puis Pat, que tu connais, un ami qu'on a en commun. On va vous rencontrer, je pense, chez Crow. Jetfield était là, Michel était là. Puis là, vous preniez la vanne, puis on s'en allait au show. C'était quoi? C'était sur Saint-Laurent, en tout cas. Puis là, moi, je vais tout le temps m'en rappeler, c'était comme une grosse, grosse vanne. Pas vos vannes cool, là, badass. C'était comme presque un Wanabago. Et là, vous aviez mis la cassette, parce que c'était une cassette, c'est un tape deck qu'il y avait, puis c'était Join the Army, le deuxième album de Suicidal Tendencies. Je vais te laisser raconter peut-être une petite anecdote croustillante là-dessus, si tu t'en rappelles. Je vais placer la toune.
On se rappelle plus ben ces années-là, mais bon. Oui, on est. Mais tu sais, Suicidal, ça a vraiment meublé notre adolescence. C'était le band que j'écoutais. Un des bands que j'écoutais le plus. Fait qu'on écoute ça?
Exact.
Yes.
C'est parti, mon kéké. Suicidal for life.
Now the story gets told.
ST for Life, Suicidal, le band par excellence qu'on adore tous les deux. Je pensais jamais en jouer le matin à CKUT, mais c'est fait. Je peux l'enlever sur ma wishlist. C'est un des groupes que je voulais mettre.
Malade.
Mais malade, c'est ça. Hey, t'as tellement de projets, le temps va vite. Dis-moi, je sais que t'es un amateur de moto.
Oui, ben c'est ça, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait dans la vie. On a shop de moto, on fabrique des frames pour à peu près toutes les grosses shops dans le monde. Fait que c'est ça, on roule Rolling Thunder, on fait Rat Shop, là, some bikes, fait qu'on fait du chopper, bobber, on s'amuse bien gros avec ça. Sinon, on monte des vans. Puis si on n'est pas avec les vans, ben moi j'ai une shop de sérigraphie, fait qu'on fait du t-shirt de band, des t-shirts de club de musique. C'est ça, fait que la sérigraphie c'est super cool. Des fois quand je suis un peu tanné justement, là, je vais m'exiler dans ma shop, puis on met de la musique, puis on print, puis c'est ça, c'est mon ex-histoire.
Quand est-ce que c'est le temps de dormir?
Paradise. Je te dirais, entre les rénaux dans la maison.
My God.
Construire des bicycles, des projets. Non, il n'y en a pas. On s'oppose pas bien. C'est correct. Je veux dire, on s'oppose pas, mais qu'on crève. Hein.
Oui, c'est ça. Le paradis à la fin de vos jours.
C'est ça, tu sais. Puis c'est ça. Puis ce que j'espère le plus, par contre, c'est ça. C'est le retour un peu plus à la normale pour les shows. Tout ça, parce que on a envie quand même de sortir encore avec Paradise, de jouer, puis j'ai même peut-être d'autres petits projets là, en plus. Là, fait que c'est ça, on s'ennuie de ça, je te dirais. Le plus, c'est de jouer.
Puis penses-tu qu'il va y avoir des shows prochainement Paradise ou c'est plus l'enregistrement
qui compte? C'est dur à dire. Justement, là, on prépare le prochain album. Fait que je pense qu'on va s'assurer d'avoir du nouveau stock avant de commencer à booker. T'sais. Puis de s'assurer aussi que ça soit le fun. J'ai envie de. Un show rock, là, si on se crache dessus, on.
C'est correct, ça fait partie de la game.
On se colle, on se crache dessus.
Pas assez à une table.
Je m'ennuie de ça pour vrai. Là, ouais. D'avoir chaud tout le monde ensemble à se tirer d'un bord puis de l'autre, c'est ça que ça te prend.
Ouais. Ben, on le souhaite. On le souhaite pour Paradise, on le souhaite pour nos auditeurs qui nous écoutent. Fait que Paradise, où est-ce qu'on peut écouter ça, voir ça?
Tu as toujours paradisedeband.com. Paradise Rock MTL, je pense que c'est YouTube, sinon c'est Paradise Rock Band, Paradise, tout ça, Paradise Rock Band, Paradise The Band, Facebook, Instagram, c'est ça. Fait que c'est assez simple, là. Mais paradiserockband.com, tout est là.
Et là, vu que le temps, est-ce que t'as quelque chose à souhaiter? T'as-tu quelque chose à annoncer?
Non, pas tant. En tout cas, je voulais juste te remercier pour l'invitation. Déjà
merci
ça,
à toi.
Ça, c'est cool. Je savais pas que ça intéresse. Ça pourrait peut-être même intéresser le monde.
Il va peut-être avoir deux auditeurs, mais il y a nous deux. Il y a au moins nous deux. On est contents. On trippe.
Non, je suis bien content de raconter de nos histoires. Puis c'est ça. Puis que le band, bon, c'est toujours de faire connaître le band un peu. Ça fait que c'est vraiment cool. Merci pour l'invitation.
Ben, on va en faire jouer. On a le vinyle. C'est quelle chanson qui a le vidéo que vous attendez?
Straight From Hell. On a quand même 4-5 vidéos pour l'album.
OK.
Mais le premier clip qu'on a sorti, c'est Straight From Hell. Fait que c'est la première tune sur l'album.
OK. Je vais aller la placer. Je sais que le temps, on va peut-être avoir juste l'intro, mais ça vaut la peine. Sinon, je vais la faire jouer au complet à la prochaine émission. Fait que sur ça, on remercie les auditeurs d'écouter CKUT 90.3. Et je vais directement à la table tournante.
Straight from hell. All right. Good.
Tame Impala in concert. Tame Impala, Slow Rush Tour, an incredible transcendent live performance. She just said, is it true, is it true, tell me now, it's a promise I can make, and I won't. Tame Impala, Place Belle, March 10th. I don't know, I don't care. Get tickets now at evenco.ca.
If you have flu-like or COVID-19-like symptoms, such as fever, cough, loss of taste or smell, or if you have been in contact with someone infected with the virus, it's essential to get tested and to follow isolation instructions, even if you're vaccinated. Screening remains one of the best ways to limit outbreaks. To find out more, visit quebec.ca/test-covid-19. A message from the Gouvernement du Québec.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, coughed into your elbow.
You know the tune. If you're celebrating with your loved ones this holiday season, make sure to keep following the sanitary measures. A message from the Gouvernement du Québec.